programme va maintenant se poursuivre en français.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un agréable début de week-end. Vous êtes à l'écoute du programme en français de Radio Prague, un programme consacré à la culture, à la littérature, mais également à la langue tchèque. On commence tout de suite avec un peu de culture et dans la rubrique culturelle de ce samedi, rencontre avec Mariana Alasseur. Mariana Alasseur, artiste peintre, qui a passé ses années de formation à Prague et à Nancy en France, auteur de nombreux projets artistiques. Le dernier en date remonte au 28 octobre à l'occasion de la fête nationale tchèque. De ceci, mais aussi de ses influences, de ses goûts, il sera question dans l'entretien qu'elle a accordé à Anna Kubišta.
Culture sans frontières.
Mariana Alasseur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste tchèque, mais alors comme les auditeurs pourront s'en rendre compte, vous parlez parfaitement français. Vous êtes une artiste aux multiples facettes, puisque vous faites à la fois de la peinture, vous faites de la vidéo, vous faites des performances, vous faites de la photo également.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez un petit peu revenir sur votre parcours très brièvement, histoire qu'on prenne connaissance avec vous?
J'ai étudié 3 ans à l'école de Beaux-Arts à Prague et après j'avais la possibilité de faire des études à Nancy à l'école de Beaux-Arts. Et donc j'ai changé pour, après 3 ans à Prague, j'ai changé pour des études là-bas. Et à Prague, j'ai étudié la peinture, surtout paysage et figuration. Figuratif. Et à Nancy, c'était option l'art, donc on avait un peu tout mélangé de domaines. On a mélangé plus de domaines.
Pourquoi avoir choisi la figuration? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, finalement, quand on regarde un peu ce qui se fait dans l'art, il y a quand même beaucoup de choses abstraites. Qu'est-ce qui vous a prédestiné d'une certaine manière à faire de la figuration?
Oui, bah, je me suis retrouvée à l'école de Beaux-Arts à Prague. Ils m'ont pris directement après l'école secondaire à 18 ans. Donc j'étais assez jeune et il y a obligation de savoir bien dessiner des figures assez classiques. Ils veulent la peinture classique pour le concours. Donc j'ai parti de ce base et j'aimais beaucoup des expressionnistes, des impressionnistes à ce moment. À ce moment-là, même français, donc ça m'a influencé. Et au début, j'ai commencé vraiment de la peinture beaucoup classique. Beaucoup classique, non, mais expressif, on peut dire.
Oui, alors justement, est-ce que c'est ce goût finalement pour les peintres français, notamment impressionnistes, qui vous a un peu poussé à aller vers la France?
C'est possible, parce que pour une peintre tchèque, je trouve que j'ai beaucoup, jusqu'à maintenant, d'enthousiasme pour des couleurs pures. Ça m'a influencé aussi dans mon travail. Et quand j'ai fait des tableaux, j'étais beaucoup... pour moi, c'était important, surtout la lumière et la pureté des couleurs. Je n'aimais pas utiliser les gris, les bruns, des couleurs comme ça. Donc, c'est assez vif, mes peintures, jusqu'à maintenant, même si c'est beaucoup plus abstrait.
Quels sont un peu vos souvenirs de votre formation à Nancy? Est-ce que ça vous a contenté? Est-ce que ça vous a apporté plus? Ou finalement, vous avez fait après votre petit bonhomme de chemin toute seule?
Non, ça m'a plu beaucoup parce qu'à Prague, c'était beaucoup plus classique, comme je dis. Donc, il y avait plein de choses, entre guillemets, un peu interdites. Maintenant, ça changeait, mais il y a déjà 14 ans, donc c'était un peu comme ça dans ma période. Donc, on n'était pas trop actif d'abord comme étudiant. Il fallait toujours attendre le prof qui vient, qui va nous dire quelque chose. Et c'était jamais au niveau de théorie de l'art. Ou c'était surtout s'il faut changer un peu la couleur là ou là.
C'était assez dogmatique.
C'était pas dogmatique parce que j'aimais beaucoup le peintre qui était le prof, qui était mon prof. C'est un très bon peintre tchèque, mais c'était juste vu un peu.
Un peu étroit d'esprit?
Un peu étroit des fois, juste pour la peinture comme ça. Et en France, Mais ça m'a donné le bon fond, à mon avis, pour aller après en France et de se libérer. Parce que après, j'ai vu que je peux être active, que je peux faire des grands formats, que j'avais pas.
Qu'il n'y a pas de
le courage faire à Prague, où il n'y avait pas tellement de respect vis-à-vis de ça, à ce moment-là, à Prague encore.
Alors, je le disais un peu en introduction, vous touchez un peu à plusieurs disciplines, hein, pas uniquement la peinture. Je disais que vous faites également de la vidéo, des performances, de la photo. C'est justement un besoin, ce besoin de se libérer, que vous exprimez aussi en touchant un peu à d'autres disciplines. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous cantonner à un seul genre?
Justement, j'aime beaucoup ça, que dans l'art, on peut lier plusieurs choses en même temps. Et ça peut rester ouvert un peu dans tous les sens et je trouve ça génial comme la communication avec des gens. Parce que maintenant, par exemple, avec mon frère, on a fait une action à Prague. On a mis le drapeau tchèque de 70 mètres carrés devant le Théâtre National.
Alors ça, il faut rappeler que c'était très récemment, c'était le 28 octobre, et c'est un projet qui s'appelle Pro Tebe, pour toi.
Oui, 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 c'est ça. Et puis chacun qui est allé dans la rue pouvait dessiner. En fait, il y avait une petite couche de sable, un centimètre, juste pour couvrir... on n'a pas vu directement que c'est le drapeau tchèque, mais les gens ont fait je laissais des grands pinceaux, des balais, des râteaux pour balayer en fait ce que les gens sont dessinés, donc des enfants, même toutes les personnes qui sont passées pouvaient écrire ou dessiner quelque chose. Et à où il y avait la caméra, parce que je fais ça avec mon frère qui est à l'école de cinéma à Prague, qui fait le film documentaire, donc il a mis au bâtiment historique de Théâtre National, la caméra qui a fait online.
Qui a un peu montré la performance en direct, en fait.
En direct, oui, sur le site web de Nouvelle Scène, de Théâtre National Nouvelle Scène.
Alors c'est intéressant parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas forcément ou qui ne s'en souviennent pas, le 28 octobre, c'est quand même donc la fête nationale. Oui. Et... alors, ce qui est intéressant dans vos œuvres, c'est que justement, ce drapeau tchèque, c'est un peu un leitmotiv, en tout cas, de certains de vos travaux. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Qu'est-ce qui vous a un peu poussé à travailler avec ce symbole? J'allais dire que c'est quasiment inhabituel à l'heure où aujourd'hui, les nations ne sont plus aussi importantes, entre guillemets, et où parfois, les références au drapeau sont parfois un peu suspectes. Oui. C'est rare de voir des artistes qui travaillent avec ce symbole.
Ça revient dans mon travail, mais c'est intuitif, c'est inconscient. Et ça revient, je sais pas, d'abord ça s'est montré un peu dans mes tableaux que je suis allée dans la peinture jusqu'au le moment où j'ai fait vraiment des tableaux monumentaux avec juste une couleur et des images un peu comme des signes sur la grande surface de la couleur. Donc pour moi, c'était un peu comme des drapeaux aussi. Mais là, en fait, le fait d'être 4 ans en France, ça m'a fait une distance par rapport à mon pays, la République tchèque. Et maintenant, je peux regarder un peu l'identité tchèque avec un peu plus, comment dire...
Un peu de recul, hein?
Un peu de recul, oui. Et un peu avec de l'humour aussi.
Alors c'est important l'humour et surtout l'humour dans l'art. Justement pour revenir un peu sur 2-3 autres projets autour justement de ce drapeau. Alors vous avez par exemple distribué à des passants au hasard dans la rue des chaussures bleues, blanches ou rouges et vous les avez pris en photo avec. Hein. Donc c'est les couleurs du drapeau tricolore qui est tricolore comme le drapeau français en fait.
Oui, oui, ça c'était en fait... parce que j'aime bien qu'il y a un espace, chaque pays a un espace qui est lié avec, même si on veut ou on ne veut pas, avec une nationalité ou des couleurs de drapeau qui sont pareilles en fait pour la République tchèque et la France, c'est rigolo. Et donc on avait cette idée, c'était une performance dans la rue, on a marché, on a demandé des gens de changer des chaussures. Et mon mari qui est photographe, Franck Lasserre, il a fait des photos qui sont des fois très belles et la surprise des gens, quelle couleur ils vont choisir ou dans quel moment on les a retrouvés, c'était intéressant.
Une autre de vos inspirations, c'est la colline de, ou le mont de Rip. Alors Rip, pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est une butte, voilà, une espèce de colline qui est dans une, disons, dans la plaine de la Bohème centrale, qui est un peu un espèce de point central parce que c'est un point de repère géographique, mais c'est aussi symbolique puisque on dit dans l'histoire tchèque que l'ancêtre tchèque est monté en haut de la colline de Rip. Alors pourquoi quoi RIP vous inspire?
Bah déjà, j'étais demandée par la galerie à Roudnice nad Labem, galerie de modern art, de faire quelque chose sur ce thème-là. Donc j'ai réfléchi, j'avais 2 ans pour réfléchir, parce que en plus c'est une bonne galerie, donc j'ai bien réfléchi comment faire, parce que j'habite pas loin de là-bas, et aussi c'était pour faire une idée un peu régionale dans la région qui peut intéresser un peu tout le monde qui habite là-bas. Et moi j'aimais beaucoup cette montagne parce qu'elle me fait un peu penser à Sainte-Victoire qui a peint Paul Cézanne en France, parce que c'est une ancienne volcan. Un ancien volcan. Et moi, j'ai fait plein de dessins ou des tableaux, des peintures qui sont beaucoup expressifs ou
très colorés
abstraits.
Ou abstraites.
Oui, ouais. Après, ils ont pris un que juste tricolore, aussi comme la couleur de drapeau, qui est assez représentatif comme symbole. Ils ont acheté dans la collection, la galerie de Roudnice. Donc j'avais une idée en plus, faire un peu comme un concept, parce que j'étais pas trop conceptuelle dans l'art au début, mais j'avais cette idée de faire, parce qu'en Tchéquie il y a beaucoup de problèmes, qu'il y a beaucoup que la culture elle est pas bien subventionnée par l'État, et qu'il y a juste 1% de...
Oui, c'est un pourcentage ridicule du budget total.
Du budget total, ce qui est assez terrible. Donc, les artistes, ils n'ont pas d'argent, les galeristes, ils n'ont pas d'argent. Et tout le monde le font juste avec énergie ce qu'ils ont, parce qu'ils aiment le faire. Mais il n'y a pas d'argent dedans, il n'y a pas trop de collectionneurs chez nous. Et j'avais cette idée, j'ai fait une poubelle qu'on a pour trier les ordures. On a la poubelle qui est un peu comme la colline, la forme de la colline pour le verre. Et ça fait vraiment la forme de la colline, où j'ai mis le drapeau en 3D, le drapeau tchèque, et j'ai écrit la culture sur le panneau qu'on a scotché là-bas. J'écris que c'est la poubelle, exactement comme c'est écrit sur les poubelles normales, c'est-à-dire glass only, juste le verre, par exemple, il faut jeter. Donc on a, j'écris culture, et après en bas il y a seulement culture, il y a dans 4 langues comme dans les poubelles normales. Que c'est juste pour la culture, et il y a en plus ne jetez pas corruption et commerce. Derrière cet objet-là que j'ai mis après à la galerie, il y avait une grande mur où il y avait le contenu de la poubelle, et où chacun pouvait écrire. J'ai commencé par le faire performance, que j'écris des projets qui m'ont le plus touché, par exemple la bibliothèque de Kaplitsky, de Jan Kaplitsky, qui sont pas construits. Donc j'ai commencé à écrire avec le pinceau bleu au vernissage. Et après, j'ai dit aux gens qu'ils peuvent écrire d'autres institutions qu'ils connaissent, qu'ils étaient détruits, ou qu'est-ce qui est en fait le contenu réel de la poubelle, que c'est visible derrière la poubelle. Donc après, le mur était plein dans 5 jours. Il n'y avait plus de place, vraiment rempli. J'ai laissé un crayon rouge, des pastels. Rouge et bleu, voilà, parce que le mur était blanc. Donc.
Pour terminer, est-ce que vous avez des projets pour l'année 2012 dont on pourrait éventuellement parler un petit peu en avance, quelque chose à quoi on peut s'attendre?
Bah déjà, j'aimerais bien finir avec mon frère, vraiment bien, le vidéo qu'on a fait de drapeau tchèque avec la musique. On met maintenant bien le son dessous, parce qu'on a essayer de demander des gens dans la rue de chanter le hymne tchèque. Et avec ça, on veut travailler pour que c'est le meilleur son possible. Donc ça, le vidéo sera fait, j'espère, dans 1 ou 2 mois. Et après, j'ai quelques expositions qui vont venir. Et puis la poubelle de la culture, elle est devant la galerie à Roudnice nad Labem maintenant. La directrice, elle a mis devant la galerie.
Merci beaucoup, Mariana Lasseur.
Oui, bah, de rien, merci aussi.
Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague, programme du week-end. Et après cet entretien réalisé par Anna Kubishta avec l'artiste peintre Mariana Alasseur, Il est l'heure de retrouver votre leçon bimensuelle de tchèque et c'est évidemment présenté et préparé par Guillaume Larguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Même si la situation s'est quelque peu améliorée ces deux dernières semaines, une importante dégradation de la qualité de l'air a été constatée en octobre et en novembre un peu partout en République tchèque. Cette pollution atmosphérique est très courante à l'automne et en hiver, notamment par temps ensoleillé et dans les régions industrielles et les zones urbaines, est la conséquence d'une importante concentration de smog, concentration qui dépasse la limite autorisée dans la plupart des stations de mesure. La République tchèque a donc étouffé sous le smog, a-t-on pu lire ou entendre à plusieurs reprises sur Radio Prague ces derniers temps. L'occasion pour nous de nous intéresser tout d'abord à ce petit mot smog, mais aussi à celui de
vzduch,
qui désigne lui l'air. L'air que l'on respire. Lors de notre dernière émission, nous avions rappelé les quelques mots d'origine tchèque devenus internationaux et utilisés dans d'autres langues du monde. International lui aussi, et malheureusement, pourrait-on ajouter, smog ne fait bien entendu pas partie de cette famille des mots d'origine tchèque. Le terme smog est un mot valise formé à partir des mots anglais, smog, fumée, et fog, brouillard. Ce néologisme fut inventé au début du XXe siècle pour décrire le mélange de brouillard et de fumée dans lequel se retrouvaient alors périodiquement plongés Londres et les autres grandes villes d'Europe. Dès le XIIIe siècle, ce smog a été identifié dans la capitale de l'Empire britannique où on utilisait le charbon pour le chauffage domestique. Mais c'est au milieu du XVIIIe siècle que les choses s'aggravent véritablement avec la révolution industrielle. Aujourd'hui, outre le charbon, la combustion d'autres carburants par les usines et les centrales thermiques et bien entendu les gaz d'échappement des véhicules contribuent également grandement à la formation de cette épaisse couche de brume brunâtre et épaisse constituée de polluants atmosphériques qui repose également sur la Bohême et la Moravie, depuis plusieurs dizaines d'années déjà, l'activité industrielle y étant restée relativement importante comme elle l'était à l'époque de la Tchécoslovaquie. Ainsi donc, pour les origines de ce mot smog, qui ne possède certes aucune étymologie tchèque, mais n'en est pas moins très usité par les Tchèques. Avec ce smog, c'est donc la qualité de l'air qui s'est dégradée. L'origine de ce mot, l'air donc, est elle aussi très intéressante, notamment parce que, à la différence de smog, il s'agit cette fois d'un mot sinon tchèque, du moins d'origine slave. Il s'agit toutefois d'un mot relativement jeune, puisqu'il n'est apparu dans la langue tchèque qu'au début du XIXe siècle, au moment du renouveau national, une période bien connue des amateurs de l'histoire tchèque. Une période surtout de réveil de la conscience nationale tchèque qui passait notamment par la langue, comme nous l'avons déjà évoqué dans cette rubrique et notamment dans notre série consacrée à l'histoire de la langue tchèque. Mais
vzduch
tire son origine du russe et plus précisément du mot
vazduch,
qui lui-même semble provenir du slavon
duch.
À l'époque, Josef Jungmann, un des grands linguistes de l'époque, artisan de la modernisation de la langue tchèque, l'adopte pour la traduction, en 1811, du poème épique « Le paradis perdu » de John Milton, suivant ainsi les conseils d'un autre grand linguiste, philologue et historien, Josef Dobrovsky. Avant cette traduction, la langue tchèque ne connaissait que le mot
« povietří »
pour désigner l'air. Bien entendu, il existe quelques nuances entre l'emploi de
« vzduch »
et de
« povietří ».
Mais pour résumer, disons simplement que le mot
« vzduch »
possède une connotation plus poétique, notamment parce qu'on y retrouve une certaine notion d'esprit
« duch ».
Le mot est également relativement proche du terme
« dech »
qui désigne lui le souffle et la respiration. Tout le contraire, on le constate ainsi, de ce fameux smog gris et industriel. Voilà. Voilà, c'est donc sur cette belle notion, en quelque sorte, d'air spirituel et poétique, mais aussi d'air indispensable à la vie, que s'achève ce Tchèque du bout de la langue. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Vous avez reconnu la voix de Václav Richter dans ce Tchèque du bout de la langue préparé par Guillaume Narguet. Et c'est Václav Richter que l'on retrouve pour la suite et la fin de ce programme avec de la littérature et, une fois n'est pas coutume, avec de la bande dessinée. Parmi les rares bandes dessinées tchèques publiées en français, il y a le dernier opus de la dessinatrice et écrivaine Lucie Lomová, intitulé « Les Sauvages », une œuvre basée sur une histoire vraie et saluée par la critique comme un des meilleurs albums du début de l'année 2011. Plus de détails sur ce livre et sur son auteur dans la rubrique préparée donc par Václav Richter.
Rencontre littéraire. Au XVIIIe siècle, Voltaire écrit le roman philosophique intitulé « L'ingénu », histoire d'un jeune indien de la tribu des Hurons amené en France. Le choc entre ce jeune homme pur, naturel et naïf et la civilisation européenne a permis aux philosophes français de relativiser les valeurs intouchables et de créer une image satirique irrésistible des faiblesses de la société de son temps. Au seuil du XXIe siècle, la dessinatrice et romancière tchèque Lucie Lomová s'est lancée dans un projet semblable en utilisant cependant les moyens de son époque. Elle a créé une bande dessinée intitulée « Divoshi, les sauvages ». Le héros de cette épopée en images est un jeune indien de la tribu paraguayenne Chamacoco, un sauvage qui se retrouve en Europe. En cherchant un sujet pour sa prochaine bande dessinée, Lucie Lomová est tombée sur le livre d'un aventurier tchèque presque oublié et que les lecteurs tchèques n'ont redécouvert que récemment.
Mon livre a été précédé par un récit composé de notes d'Alberto Wojtiech Fritsch, paru aux éditions Titanic. Je l'ai lu et l'histoire de cet Indien m'a tellement subjuguée que je me suis dit que ce serait un sujet idéal pour ma prochaine bande dessinée, le roman dessiné comme nous le disons.
Et la vie d'Alberto Wojtiech Fritsch, qui a vécu de 1882 à 1944, est un roman passionnant. Ce botaniste, ethnographe, photographe et écrivain fait plusieurs voyages en Amérique latine et passe en tout 10 ans parmi les Indiens. Lors de ses séjours en Amérique, il vit parmi eux, adopte leurs habitudes et leurs coutumes, partage leur existence. C'est en 1908 qu'il rencontre Cherwish, un jeune indien souffrant d'une maladie qui semble incurable et fait des ravages dans la tribu Chamacoco. Cherchant à aider le jeune malade, Fritsch l'accompagne d'abord à Buenos Aires et comme les médecins de cette ville se montrent impuissants contre ce mal inconnu, il s'embarque avec Cherwish sur un paquebot pour l'amener en Europe et à Prague. Et c'est le choc des civilisations. Le jeune indien se heurte tout le temps aux habitudes de la vie civilisée. Objet de curiosité des gens, il n'en est pas moins exposé à leur incompréhension, leurs préjugés et leur égoïsme. Comme il fallait s'y attendre, son comportement sauvage complique considérablement aussi la vie de son ami Fritsch, obligé par les circonstances de jouer le rôle de protecteur et de tuteur de cet incommode ingénu. Il va de soi que Fritsch est considéré aussi comme responsable des scandale provoqué par ce sauvage qu'il a osé amener en Europe. Dans sa bande dessinée, Lucie Lomová ne manque pas d'exploiter ces situations dramatiques et rocambolesques, pleines de drôleries, d'humour, de malentendus et d'émotions.
C'est un roman à deux niveaux qui sont fascinants. Le premier, c'est l'histoire de ce pauvre Indien qui ne comprend absolument rien quand il est arraché à son milieu naturel et projeté dans la civilisation européenne du début du XXe siècle. Et puis, c'est l'époque où le monde change rapidement et les gens, enchantés, espèrent un bel avenir. Ce n'est que notre recul dans le temps qui nous permet de voir quel désastre les attendait.
Alberto Wojtek Fritsch et Czarwisz forment un couple disparate, mais malgré leurs différences et les conflits qui les opposent, ils finissent par se lier d'une véritable amitié. D'ailleurs, Fritsch lui-même se sent un peu comme un sauvage dans la société tchèque de son temps qui l'accuse d'hypocrisie. Selon Lucia Lomová, ces deux héros se reflètent l'un dans l'autre parce qu'ils sont en réalité outsiders dans leurs sociétés respectives. D'ailleurs, la fin de l'histoire semble confirmer ces paroles. Czarwisz, ramené finalement par Fritsch au Paraguay, est déjà trop civilisé, trop infecté de la civilisation occidentale. Il cherchera en vain à partager ses expériences européennes avec les hommes de sa tribu. Ces récits semblent trop invraisemblables aux Indiens Chamacoco et ils finissent par le chasser en le traitant de menteur. Czarwisz mourra en Amérique en 1967. Lucia Lomová a travaillé 2 ans et demi sur son livre. Avant de se mettre à dessiner, elle écrit une espèce de scénario qui lui servira de charpente pour son récit. Elle étudie aussi attentivement des sources littéraires, dont le livre qu'Alberto Fritsch a consacré à son ami sauvage, mais aussi des photos et d'autres documents.
La tribu des Indiens de Chamacoco a eu la grande chance d'avoir été visitée par 2 grands photographes. Le premier a été l'Italien Guido Boggiani, qui a réalisé de beaux portraits de divers types d'Indiens. Et puis, il y a eu l'arrivée de Fritsch, qui était aussi un bon photographe.
C'est en se basant sur les photos que Lucia Lomová cherche à saisir les traits de visage de ses personnages, et ce n'est qu'après qu'elle les dessine pour les faire finalement évoluer dans de diverses situations formant ensemble son roman.
Je devais surtout adapter un peu cette histoire parce que Fritsch avait conçu son récit avec l'intention de le publier sous forme de série dans le magazine Pestritiden. D'abord, il n'envisageait pas d'écrire un livre et il y a donc beaucoup de motifs que j'ai dû éliminer à mon grand regret. J'ai dû inventer certains personnages et certaines situations pour former un ensemble, pour créer un récit cohérent.
Aujourd'hui, la bande dessinée est pour Lucia Lomová son principal moyen d'expression. Elle est un des meilleurs, sinon le meilleur auteur de ce genre en Tchéquie. Elle voit se réaliser ainsi les aspirations artistiques de son enfance. Petite, elle gribouillait déjà ses premières bandes dessinées, récits sur des princesses et de jeunes aventuriers.
Je ne savais pas si je voulais être peintre ou écrivain et je pensais qu'on ne pouvait pas être les deux à la fois. Je mariais donc les deux activités tout naturellement en créant des bandes dessinées et ce n'est que plus tard que j'ai fini par me rendre compte que c'était justement ce qui me faisait le plus grand plaisir et m'amusait le plus.
Lucia Lomová doit son succès à un talent très spécial, mais aussi à une vague de popularité de la bande dessinée. Elle a eu la chance de venir à un bon moment. Bien qu'elle aime la bande dessinée, elle ne trouve pas facilement une explication à la popularité croissante de cet art qui se situe au croisement de la littérature et du dessin et qui, récemment encore, était décrié en République tchèque.
À ce propos, je ne vous dirai rien de très intelligent. Je pense tout simplement que pour une raison qui n'est pas évidente, les gens ont commencé à se rendre compte que la bande dessinée n'était pas qu'une lecture pour les adolescents, les enfants ou les adultes un peu bébêtes et qu'elle pouvait apporter des thèmes traités normalement par la littérature classique. Il y a aussi des bandes dessinées documentaires, biographiques. Même chez nous, il y a un grand boom de la bande dessinée. C'est un genre qui apporte beaucoup de choses intéressantes.
La version française du roman dessiné de Lucia Lomová, Les Sauvages, est sortie en 2011 aux éditions Actes Sud, l'an 2.
Et c'est déjà la fin du programme en français de Radio Prague. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Alexis Rosenzweig au micro. Au revoir. Nasredano.
Radio Praga continúa.